Bonsoir à toutes et à tous, c'est Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes, tout de suite. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de Radio Cadu, évidemment, avec l'émission Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Et je lâche tout de suite la parole
on va démarrer,
à mon
donc,
camarade qui va nous présenter l'émission de ce soir.
À tous et à tous. Donc, on va changer un petit peu les habitudes. Il n'y aura pas d'annonce ce soir. On fera ça peut-être un peu plus tard en fin d'émission, si on a le temps. Parce que du coup, il y a l'actualité qui prime. Et donc, du coup, on est avec deux salariés, peut-être trois bientôt. On verra si le troisième arrive. Deux salariés du coup du centre Gabriel Rosset, enfin du coup de l'association Notre-Dame des Sans-Abri. Si vous avez suivi un peu l'actualité de ces derniers jours, voilà, il y a eu un mouvement de grève sur deux jours, hier et aujourd'hui, si je dis pas de conneries. Voilà, c'est bien, je commence pas de conneries, c'est bien. Et du coup, voilà, on voulait faire un petit point avec eux et elles sur le mouvement et comment ça se passait dans le boulot. Et du coup, on vous propose de démarrer. Du coup, moi j'ai fait mon petit boulot hier, voilà, devant mon ordinateur. Et bah, après, je connaissais un petit peu le foyer Notre-Dame sans-abri. Je me suis dit, pour un novice qui connaît pas, voilà, qu'est-ce que c'est que cette assoce, qui a l'accueil, quel boulot elle fait. Du coup, je suis allé voir. Et bah, on dirait que c'est tout beau et c'est tout magique là-bas. Ouais, je suis allé faire un petit tour. Donc voilà, le site sur la première page, j'aimais bien en avant, voilà, les personnes accueillies, en racontant leur histoire perso. Donc, tu as des petits portraits des personnes. Quand tu cliques dessus, tu as leur histoire. Voilà, comment aussi ils sont accueillis, du coup, sur le foyer. Tu as l'impression que c'est super bien. Il y a des chiffres, énormément de chiffres. Hein, voilà, donc tu as des chiffres sur les nuitées, hein, 350 800 nuitées, 415 000 repas, 1580 bénévoles, voilà, 11 300 actes de santé. Il y a le bric-à-brac, il y a les collectes. Enfin, voilà, on a l'impression que c'est super. Puis du coup, moi qui avais regardé un petit peu le pourquoi de la grève, je m'étais dit quand même je vais aller voir les photos sur le site, parce que du coup il parle un petit peu de l'hébergement, des salles d'hébergement. Du coup je vais voir sur les photos, putain, il y a des photos, c'est très très beau, hein, voilà. Donc t'as les petits lits de camp qui sont installés, t'as de la place, tout est propre, hein, t'as l'impression que du coup les salariés sont des gros menteurs et des menteuses quand on a lu du coup l'appel à la grève. Voilà, on parle beaucoup moins des salariés, par contre il y a un petit encart, voilà, sur les 285 salariés en tout, dont 122 en situation d'insertion. Et puis après, du coup, je voulais faire un petit tour sur l'émission, voilà, pour voir un petit peu ce qu'il en était. Donc, voyez, l'accueil de jour, hébergement d'urgence, hébergement d'insertion, accompagnement, atelier d'insertion, santé, bric-à-brac, etc. Puis après, il y a le beau projet associatif, hein, voilà, qui ont plusieurs thèmes: laïcité, spiritualité, dignité, respect, charité et solidarité, non-discrimination et engagement de bonne gestion. Et donc, du coup, voilà, quand on voit tout ça, on se dit, mais où est donc le problème, voilà, pour les salariés? Et bah, du coup, voilà, on a été jeter un petit coup d'œil aussi, voilà. Donc, on a un peu toutes les infos par rapport au préavis de grève, par rapport à l'appel du coup à la grève des salariés. Et puis voilà, du coup, parce qu'il y a des choses, voilà, quand on lit ça, bah, on se demande où on tombe, du coup, qu'est-ce que c'est que ce faux site du foyer Notre-Dame des Sans-Abri. Voilà, donc pas, bah, du coup, on va commencer vite fait, bah, du coup, sur le pourquoi du mouvement. On sait que c'est pas le premier là-bas, on sait que c'est des choses qui reviennent un petit peu, voire tous les ans, voire tous les deux ans, mais du coup, on va voir un petit peu ce qu'il en était et le pourquoi de ce mouvement déjà, pour commencer. Je sais pas qui c'est qui va y aller.
Oui, bonjour. On est là en grande partie, bon, surtout pour en tant que représentant d'une grande partie des salariés du centre Gabriel Rosset. Voilà, on souhaite dénoncer les conditions d'accueil et d'hébergement de ce grand centre d'hébergement d'urgence où il y a donc 191 personnes qui sont hébergées toutes les nuits et qui est ouvert 24 heures sur 24. Donc voilà, faut savoir, donc c'est des gens qui arrivent au foyer à travers donc le 115. Et quand ils arrivent, donc ils se retrouvent dans un grand hall. Un grand hall qui est massifié, où il y a énormément de personnes. Donc là, il faut qu'ils pointent. Et ensuite, il faut qu'ils attendent pour pouvoir monter dans leur box. C'est-à-dire, on appelle des box des chambres de 2 à 3 mètres carrés.
Parce qu'on ne se rend pas bien compte qu'on imagine que les gens sont hébergés de manière très digne et très. Voilà.
Oui,
donc là,
non,
c'est vraiment des petits box, c'est vraiment des trucs.
Oui, c'est sur 3 étages où il y a 42 personnes qui sont logées dans chaque étage, dans des mini-chambres de 2-3 mètres carrés. Ou qui sont même pas fermés, où on entend tout ce qui se passe à côté, donc des gens qui peuvent parler au téléphone, des gens qui toussent, des gens qui ronflent, des gens qui peuvent peut-être sentir mauvais également, donc de grosses difficultés à dormir. Et puis ensuite c'est le réveil à 6h30 du matin pour aller prendre le petit déjeuner, donc déjà après une nuit vraiment pas très reposante. Donc on parle de gens qui doivent aller chercher du travail aussi pendant la journée. Et donc imaginez, vous passez toute la journée dans la rue, on vous réveille à 6h30 du matin, vous passez toute la journée dans la rue, vous êtes crevé, le soir vous pouvez pas aller, vous avez pas accès à votre lit avant 20h30, donc je vois pas trop...
Parce que du coup il y a aucune prise en charge sur la journée quoi, c'est vraiment de l'accueil de nuitée, enfin c'est vraiment ça du coup, c'est
exactement.
Fin de journée jusqu'au petit matin, parce que c'est tout en plus. Enfin, voilà,
il y a quelques personnes qui ont le droit de manger à midi. Mais c'est une infime minorité, c'est les personnes vraiment qui sont les plus malades. Mais on considère que, la direction considère qu'il y a des accueils de jour qui sont ouverts et que donc les personnes peuvent manger à midi dans ces accueils de jour. Sauf qu'on oublie également que donc c'est un accueil inconditionnel, donc il y a beaucoup de personnes qui sont sans papier et qui n'osent pas sortir du centre, du foyer, des contrôles de police.
Ouais, carrément. D'accord, parce que du coup, je ne sais pas si tu veux ajouter autre chose, du coup, vas-y, enchaîne, il n'y a pas de souci.
J'aurais bien ajouté aussi que du coup, il y a seulement 15 douches pour ces 191 résidents.
Ouais, du coup, ouais.
Pareil, c'est un peu ouf, quoi, du coup, ouais. C'est un peu compliqué. Au niveau des toilettes, ils ont accès aux toilettes seulement en bas. Et il y a uniquement.
Je pense que ça y est, un peu de l'arsène, je ne sais pas pourquoi. Mais pourquoi tu commences ça? Merci. Super. Wow, quelqu'un est arrivé, il nous a sauvés. Merci bien.
Je sais pas, 6 toilettes.
Ouais, il y a
pour 6 191 toilettes. Personnes en journée. Donc du coup, c'est pareil pour soit aller aux toilettes ou aller se laver, c'est assez limité, c'est dans des états lamentables. On a des trous au plafond pour aller se laver, enfin des câbles apparents, des fuites, des rats qui tombent, c'est assez compliqué pour les usagers du coup de pouvoir accéder à l'hygiène, alors que c'est ce qu'on leur demande. On a des personnes incuries, qu'on a des.
Oui, mais du coup, c'est une des priorités aussi de l'accueil, quoi.
Voilà, c'est l'hygiène, et du coup, ils n'ont pas ce réel accès à l'hygiène, en fait. Cette proximité des douches.
Je pense que c'est le micro qui.
Ouais, mais du coup, j'ai coupé, on ne s'entendra pas, c'est pas grave. Enfin, du coup, on va juste parler comme ça, comme si on était, du coup, voilà. Ouais, c'est pas plus mal du coup, ça évitera de... Donc du coup voilà, ouais, donc on a vu un petit peu l'accueil. J'avais vu aussi du coup sur cet accueil là, donc t'as parlé des 3 étages tout à l'heure, et puis il y avait ce rez-de-chaussée, enfin du coup il y a un dortoir rez-de-chaussée, voilà, qui s'appelle du coup qui est
le dortoir du bas.
Voilà, donc qui est appelé du coup entre guillemets la cave. C'est ça du coup, et donc là a priori du coup par contre c'est assez
Alors, ce dortoir du bas, moi ça m'a choqué quand je suis arrivée, c'était la cave.
Donc déjà,
je suis arrivé dans un... Effectivement, on arrive, on pourrait accéder par les trous qui sont au plafond. Hein. C'est assez magique, on arrive, il y a des trous avec des rats qui passent. J'étais assez surprise la première fois que je suis rentrée. Il y a une odeur qui nous prend, qui est assez violente. Et on arrive, et là, il y a une vingtaine de lits. Mais les uns sur les autres, c'est assez petit, et des lits à étage. Et là, il y a les personnes les plus abîmées, les plus...
Oui,
les plus
déstructurées.
Déstructurées, les plus mal. Des gens qui ont 20 ans de rue, qui sont loin, et on les fait dormir là les uns sur les autres, et on les accompagne vers la déchéance au lieu de les accompagner vers quelque chose
mieux. De mieux, d'accord.
Oui, parce qu'on se demande comment on peut travailler l'hygiène pendant la journée et puis après les faire dormir
dans un truc comme ça.
Endroit.
Parce que du coup, ouais, du coup, on lit sur le truc, voilà, hein, punaise, poux, rat, souris, donc voilà, donc ça c'est un peu le truc. Il y a aussi l'histoire de la nourriture aussi. Du coup, a priori.
Les punaises, quand même.
Ouais, les punaises de lit aussi, voilà, ouais.
Punaises, on a régulièrement des invasions, mais ça c'est sur tous les étages, sur les 3 étages et sur le 3 du bas, des gens qui sont, mais. mangée par sa punaise et qui, bah, déjà, c'est compliqué de dormir. Il y a le voisin qui parle, effectivement, comme expliquait mon collègue. Mais en plus, eh ben, on se fait bouffer par des bêtes et c'est compliqué.
Absolument, plus c'est des personnes voilà, qui viennent là pour être hébergées, qui ne sont pas forcément malades sur ce point-là. Enfin, du coup, voilà, et du coup, qui vont choper aussi des maladies en étant hébergées sur un hébergement d'urgence. Donc, c'est assez, assez triste. Vous avez l'histoire aussi de la nourriture. Du coup, a priori, pour eux, hein, en tout cas, pour ceux qui sont donc, à la cave. Quoi. Du coup, ça fait un peu bizarre, mais du coup, voilà, c'est comme ça. Ça, donc, il y a aussi des gros soucis là-dessus, a priori.
Alors, les repas, du coup, les repas du soir sont pris par tout le monde. Et ils sont tous soumis à ce problème du coup de pain moisi, de date de péremption, de repas qui sont toujours les mêmes le midi et le soir. Enfin, des fois ils vont manger trois soirs d'affilée la même chose. Des repas réchauffés, on n'est pas sûr de la fraîcheur.
Non, et puis imaginez le soir vous donnez un monsieur qui a pas mangé de la journée, vous lui donnez une tranche de pain moisi. Alors, la première fois, vous lui dites, voyez, je suis désolé,
ça n'arrivera plus, voilà.
Encore, et puis la troisième fois, là, il s'énerve, et en fait...
Oui, mais forcément, du coup, c'est entendant, mais du coup, ça retombe du coup sur les salariés, enfin voilà, ce genre de problème, voilà, c'est pas la direction qui les prend dans la gueule, en tout cas sur eux et sur les salariés. Du coup, il y avait aussi qui étaient abordés, c'était du coup sur les désinfections. Des ratisations, des parasitages du coup hebdomadaires, a priori c'est ça du coup toute la semaine.
Oui, parce que du coup problème de punaise, l'idéal serait d'huiler les bâtiments pour faire un traitement
global,
sauf qu'ils traitent par étage, par cabine ou box infectée, et ils font ça tous les jours, ils font ça aussi dans les étages, et récemment on a une collègue qui a été intoxiquée par ces produits là donc on ose imaginer que nous qui passons juste dans les couloirs, on arrive à être intoxiqués. Eux, ils dorment avec ces produits. C'est quand même compliqué, sachant que c'est déjà insalubre, mais en plus, ils risquent d'être malades et d'être intoxiqués.
Ouais, et puis après, il ne faut pas oublier que quand on dénonce ces conditions, également, après, on a... Enfin, voilà, j'ai envie de lire un mail que j'ai lu ce matin en arrivant au bureau. Voilà, enfin, vous comprendrez quand je le lis. Donc bonjour, veuillez trouver en annexe pour votre information le rapport d'activité de la société Acedra qui a procédé à la dératisation suite à votre courriel du 20 octobre. Vous constatez la réactivité du prestataire quant à notre réclamation. Vous noterez aussi qu'en plus de les nourrir, les usagers déplacent ou enlèvent les appâts destinés aux rongeurs. Entre parenthèses, bizarre. Quant à la canalisation qui serait éventuellement défectueuse, on peut réparer à condition que les usagers n'incitent pas les rats sur mulot en les appâtant avec la bonne odeur de la nourriture, bien cordialement. Donc voilà, c'est la faute des usagers. S'il y a des rats, c'est la faute des professionnels qui font pas bien leur boulot. Enfin,
ouais, donc, du coup, c'est encore rejeter la faute sur...
Oui. C'est la faute des professionnels si les usagers sont sales. Mais effectivement, quand on est... 4 personnes le soir de 15h à 12h, c'est compliqué de suivre ça, chaque usager pour aller nettoyer derrière lui, lui dire non, tu peux pas laisser ta nourriture là.
4 ou 2, faut pas oublier qu'avant-hier, par exemple, il y avait un éducateur et un agent d'accueil pour 191 personnes.
Ouais, du coup, c'est là, du coup, ce truc que je voulais aborder après, c'est donc par rapport au nombre de. Vas-y, enchaîne, vas-y. Non, c'est bon. Non, mais du coup, c'est par rapport du coup au nombre de salariés qui travaillent du coup dans ce centre-là. Du coup, là, il y avait donc sur le, si je me trompe, enfin, tout quoi sur le texte, il y a marqué 6 éducateurs et éducatrices, plus 2 personnes en formation, 2 infirmières, 1 AMP, donc assistante médico-psychologique, 2 assistants sociaux et donc 6 agents d'accueil. Du coup, pour ces 191 donc résidents, donc ça fait quand même du. Du coup, c'est pas un boulot de. C'est compliqué, enfin, nombre de personnes de prise en charge, voilà, sur...
Voilà, il y a 6 éducateurs spécialisés sur le centre Gabriel Rosset, sur l'hébergement. On a 6 éducateurs spécialisés, dont 2 en formation, qui doivent assurer le suivi des 148 passagers sur l'urgence, le suivi social.
D'accord.
Plus une assistante sociale qui assure le suivi sur l'accueil d'urgence des 9 couples qu'on a, et qui vient nous aider sur des situations les plus compliquées.
Ouais.
Mais actuellement, on a plus de 20 situations chacun. Donc c'est très compliqué de suivre 20 situations en étant là 10 heures par jour parce qu'on travaille sur des cycles de 10 heures, 3 ou 4 jours par semaine, on n'arrive pas à suivre, on ne peut pas faire le suivi.
Oui, faire le suivi divin, ouais.
Sachant qu'on nous demande de faire également les accueils à la nuitée, parce qu'on a fait des accueils à la nuitée, de faire de vérifier que ce n'est pas sale, de s'occuper des draps parce qu'ils manquent toujours des draps, de s'occuper des serviettes, de s'occuper de la bagagerie parce qu'on a une bagagerie, on nous demande de plus en plus de choses. Mais il faut qu'on accueille aussi. Enfin, faut qu'on,
ça, la bagagerie, c'est autre chose parce que il est censé y avoir un turnover pour les personnes qu'on héberge.
Ouais.
Mais il faut savoir qu'il y en a qui restent plusieurs années là-bas. Et donc, il y a une vieille bagagerie bien vétuste où se mélangent les punaises de lit et tout. Et puis, où ils ont le droit de mettre soit deux petites valises, soit une grosse valise par personne. Donc voilà, imaginez qu'on vous dit de mettre 15 ans de votre vie dans une valise. Donc là se pose le problème également de la bagagerie. Mm-hmm. C'est un gros problème aussi au niveau de Lyon, en général.
Bagagerie qui est ouverte uniquement le matin, uniquement le soir. Donc c'est pareil, c'est pour les gens qui travaillent, ça peut être compliqué. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il faut prévoir la veille pour le lendemain. On accueille effectivement 148 personnes sur l'urgence et 25 sur le CHRS. Il y a des vols malheureusement. Enfin, c'est aussi
vrai, c'est
le problème. Les gens ne peuvent pas garder leur sac avec la nuit, les portes ne ferment pas à clé. Donc il y a toute cette complexité avec cette bagagerie et ce besoin des gens qui travaillent, qui ont une vie, qui ont effectivement.
Ouais, oui, tu comprends. Je pense que c'est un mélange de personnes, enfin, des personnes en grande difficulté, voilà, qui sont plus de trop de liens sociaux. Donc voilà, forcément, il y a des.
Il y a des problèmes de mais même en dehors de ça, de pathologies psychiatriques ou de.
Oui, de plus en plus, je pense aussi.
Malheureusement, oui. Et puis, je pense que l'accueil qu'on leur propose
n'est pas adapté du coup.
Et puis aussi peut développer des pathologies, ne pas dormir pendant des semaines parce que c'est compliqué de dormir sur place. Chez n'importe qui, je pense que ça développerait des pathologies ou des envies d'aller boire. Enfin, ça n'a rien de chaud quand.
Ouais, carrément.
Et puis, j'aimerais aussi qu'on parle des infirmières.
Ouais, du coup, parce que du coup, c'est aussi cité dans, dans votre texte d'appel.
Entre 50 et 70 actes médicaux par jour, donc un boulot de dingue.
Oui, parce que du coup, elles bossent à peu près le même nombre d'heures que vous, je suppose, voilà. Ouais.
Exact, bah, 1,80 temps plein, en gros. Et une aide médico-psychologique, toute seule, pour faire les accompagnements à la douche médicalisée.
On leur demande d'être propre, mais elle est toute seule pour laver.
Ouais, c'est du coup ça. C'est comme je disais tout à l'heure, moi j'avais du coup un pote qui avait fait bosser 2 ans là-bas et donc qui n'avait pas tenu plus, hein, parce que c'est très compliqué de tenir longtemps la route, hein, parce que le boulot est compliqué déjà à la base, mais après, déjà, si on veut le faire, on peut. Voilà, c'est un truc qu'on veut faire. Il y a pas de souci, on le fait bien, mais du coup après c'était sur la charge de travail à faire qui s'accumulait et qui du coup il parlait aussi des dossiers qu'il devait gérer. Et, je pense que c'était déjà le cas à l'époque, hein, c'était déjà au moins un pour 20 à mon avis, hein, un dossier, enfin une personne pour 20 dossiers que du coup il n'avait plus du tout à faire comme il faut. Voilà, les trucs de la douche où on se donnait des coups de main des fois entre professionnels, mais des fois, voilà, c'est pas forcément ce pourquoi tu dois bosser, et puis du coup, tu donnes des coups de main, mais après, derrière, tu fais mal ton boulot derrière, ou du coup, enfin, c'est très compliqué. Donc voilà, il y avait aussi, du coup, forcément, les problèmes d'agression aussi, hein, voilà, qui étaient aussi cités dans au moins l'insécurité constante, mais ce qui est compréhensif, hein, voilà, ce qui fait partie aussi du boulot, hein. On le sait au départ, à mon avis, voilà, et pour les salariés, voilà. Non, mais c'était pour les deux, ouais, c'est pour ça, ouais, non, mais c'était bien précisé dans le texte, du coup voilà, c'était aussi, ça faisait aussi partie du truc. Et tac, mais du coup on va peut-être parler, du coup on a pas mal parlé des causes, de voir un peu comment ça s'est mis en place, la mobilisation. Enfin, on en a parlé un petit peu en off tout à l'heure. C'est vrai que du coup dans ce métier là travailleurs et travailleuses sociales, se mettre en grève, c'est pas anodin, c'est pas facile, parce que du coup on sait que le boulot est pas fait quand on n'est pas là, qu'on met en difficulté les collègues qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas faire grève. Et du coup voilà, voir un petit peu comment ça s'est monté. Donc là j'ai vu que le préavis de grève était via Sud. Voilà, du coup donc c'est le syndicat qui représentait.
Après c'est le collectif des salariés.
Collectif des salariés. Sud a posé le préavis pour vous permettre de faire grève. Voilà, d'accord.
Vraiment on a la chance d'avoir ce soutien là.
Et donc du coup hier il y avait donc appel à rassemblement là de 11h à 15h, ça, ouais, du coup devant le centre Gabriel Rosset, donc pour savoir un petit peu comment c'était passé.
Oui, la grève en fait vient d'un ras-le-bol général, hein. Il y avait déjà un écrit qui avait été fait au mois d'avril dernier, destiné à la direction. Il n'y a eu aucune réponse à cet écrit. Et puis ensuite, du coup, il y a eu un chef de service qui est venu. Faut dire qu'on a eu 3 chefs de service en 2 ans. Le dernier est parti début mai et n'est toujours pas revenu.
Il y en a arrêt, parce que ce qu'on disait alors, s'il y a beaucoup d'arrêts, du coup, forcément, au bout d'un moment. Ouais.
Alors donc, c'est beaucoup tendu. De difficultés. Et donc, tout est parti d'une demande de prime, finalement. Là, tout le monde était d'accord. On a demandé une prime de 300 € pour toute l'année 2015, pour le fait qu'on n'a pas eu les difficultés avec les chefs de service. Et donc voilà, tout est parti de là, mais avec la finalité, en fait, Le but, c'est une amélioration des conditions d'accueil et d'hébergement. Ce qui a lancé à la fin le mouvement.
C'était la prime a permis d'être rassembleur. Après, il y avait toutes les conditions d'hébergement qui étaient rassembleurs. Cette prime, après, on l'a demandé parce que ça faisait des années que, n'ayant pas de chef de service, le CGR était le seul site du foyer Notre-Dame des Sans-Abris à ne pas avoir de prime parce qu'il n'y avait pas de chef de service.
D'accord,
on l'a demandé. C'est quelque chose qui se fait tous les ans. Il y a des primes tous les ans.
Oui, forcément.
Ça,
là, parce qu'il n'y avait pas de chef.
Ça peut permettre de rassembler tout le monde.
Effectivement, c'est parfait. Rassembleur, mais parce qu'on a des salaires tellement bas, malheureusement, que c'est effectivement l'argent, malheureusement, c'est rassembleur.
D'où le problème de pouvoir faire une grève.
Oui, comme je disais.
La grève est un droit, mais aussi faut-il pouvoir la faire.
Et du coup, on a fait toute une liste, tous ensemble, des revendications qui nous paraissaient importantes, aussi bien au niveau des conditions d'hébergement pour les usagers, mais aussi des conditions de travail. Donc c'était quelque chose qu'on a travaillé tous ensemble sur à partir du mois de septembre. On a commencé à faire ça. Donc on avait fait une première lettre en demandant une rencontre avec la direction à ce niveau-là. On a fait donc deux premières journées de grève au mois de septembre, le 24 et 25 septembre. Et du coup, là, les deux journées de grève qui venaient là, le 25 octobre, le 26 octobre, c'était vraiment en réponse à la réunion qu'on avait eue avec la direction, où on n'avait eu aucune réponse. Absolument pas satisfaisante par rapport
Et puis un mépris général de la direction, et puis même, il y a des choses, par exemple, dans l'écrit qui avait été fait en avril, on prévenait par exemple que l'infirmerie était au bout d'un couloir sombre, qu'il pouvait s'y passer n'importe quoi à tout moment. Et puis finalement, il y a eu une aide-soignante intérimaire qui s'est fait agresser sexuellement. Alors maintenant, tout à coup, il paraît qu'ils vont changer l'infirmerie de place.
Mais du coup, il a fallu attendre ça alors que ça avait été prévenu.
Après, on nous dit des choses, mais ça se fait pas toujours. Et là, du coup, on sait que la direction qui se trouve donc les bureaux du deuxième et du troisième étage vont déménager dans des locaux tout neufs.
Ouais.
Et donc nous on demandait par exemple à ce que le dortoir du bas soit éliminé, supprimé.
Ouais, passe ailleurs du coup.
Mettre ces personnes à un autre endroit. Et donc on nous a dit quand les travaux seront finis, quand le siège sera autre part, on mettra les gens dans les bureaux, mais sans faire de travaux.
Sans aménager la salle. Ouais.
La première réponse qui nous avait quand même été faite, c'était que sinon on pouvait remettre ces 20 personnes à la rue. Une fois de plus, c'était pour nous culpabiliser. Et là, ce qu'ils nous proposent, c'est pas avant mai-juin 2017. Donc on continue à laisser des gens dans des conditions inhumaines.
Du coup, tout l'hiver.
Tout l'hiver. Un hiver de plus. C'est encore quelques mois de plus, mais ces gens-là, ils sont à bout. Et on nous propose des bureaux, mais des pièces vides, on ne nous propose pas d'aménagement, on nous propose vraiment le minimum.
D'accord, mais du coup, je vais quand même lire la liste là, des revendications, comme ça vous saurez tout. Donc il y a toute une thématique sur les conditions d'hébergement, du coup. Donc effectivement, il y a la fermeture du dortoir du bas et affectation d'une équipe dédiée sur un créneau horaire plus important. Voilà, donc avec précise après, héberger des êtres humains dans de telles conditions, dans un lieu mortifère où se baladent les rats et autres bêtes est un crime. La rénovation des sanitaires, douches et toilettes, parce que je suppose aussi ça va être un peu... On a le nettoyage régulier des sanitaires, même le week-end, parce que du coup, a priori, c'est pas fait.
Les éducateurs, sinon.
Oui, bah du coup, le fond, le fond, voilà, mais du coup, là, c'est pas dans leur prérogative première, ça c'est sûr. Permettre aux personnes hébergées de se restaurer à midi. Donc voilà, donc, en présence, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, la majorité des hébergés n'a pas de ressources financières et de ce fait ne peut pas manger à midi, même dans les restaurants municipaux. Permettre l'accès aux cabines durant la journée, un contrôle strict de la nourriture servie aux personnes et mettre fin aux abus concernant les dates de péremption, pain moisi et certains produits périmés de plusieurs mois, la mise en place de lave-linge professionnel pour les personnes hébergées au CHU et au CHRS. Déplacement de la bagagerie dont on parlait tout à l'heure vers un lieu plus grand, le respect de la loi, notamment le principe de continuité et arrêt de l'hébergement à la nuitée, parce que du coup dans ce qu'ils disent globalement sur leur site, c'est que l'hébergement à la nuitée, c'est un truc sur le long terme, on va dire, au moins sur le moyen terme. Là du coup, ce qui devrait pas être fait, c'est qu'il y a des gens qui viennent qu'une seule nuit,
chaque personne qui est hébergée et qui est stabilisée, on appelle ça des personnes stabilisées parce qu'elles ont leur place tant qu'on n'a pas trouvé d'autre solution, et en fait elles ont droit de s'absenter 4 jours par mois. Donc quand elles prennent une nuit, on redonne cette place au 115. Ouais. Donc les personnes appelées au 115 ont une nuit. Le problème, c'est que depuis la loi de 2007, le principe de continuité, ça c'est interdit. Donc la direction nous affirme quand même qu'elle a l'aval de la DDCS et de la MVS pour faire ça. Mais bon, on aimerait bien que ça s'arrête, parce que ça n'a pas de sens. On prend les gens pour une nuit, on les remet à la rue le lendemain.
C'est l'intérêt,
effectivement, on a des personnes devant. Pourquoi moi je viens qu'une nuit et pourquoi j'ai pas une nuit j'ai une nuit tous les 15 jours. Et puis on va dire, on va appeler la 115 en disant ce monsieur il est très malade, ça serait bien qu'il ait souvent des nuits. Mais du coup, le petit jeune qui a 15 ans, enfin qui a 18 ans, qui est majeur, il va avoir moins de nuits parce qu'il est plus.
Dans le truc,
il est en meilleure santé. C'est compliqué, les nuités.
Et puis du coup, il y avait après sur les conditions de travail, parce que du coup, ça compte aussi pour bien faire son boulot et du coup pour mieux accueillir les personnes. Donc il y avait l'embauche de personnel éducatif et sanitaire supplémentaire, parce qu'on a vu du coup le nombre de dossiers à traiter par personne, c'est assez fou. Le remplacement des salariés en arrêt, en congé ou en formation, et non plus par des agents de sécurité. Donc ça, j'ai un peu halluciné aussi là-dessus.
Oui,
du
c'est coup. Ça, en fait, quand un éducateur est absent, on le remplace par un agent de sécurité.
D'accord.
Quand un assistant social est absent,
on
le remplace par un agent de sécurité qui vient juste faire de la sécurité et jouer les gros bras.
Oui, du coup, surveiller ce qui se passe et pas du coup intervenir en manière professionnelle. Du coup, c'est pas son boulot de toute manière, de toute façon. C'est pas de sa faute à lui. Du coup, ça montre le mépris de la direction quand il y a parce que du coup, on sait que quand il y a des arrêts en congé.
Quand il y a des absents, de toute façon, c'est rare qu'il soit remplacé.
Ouais.
On est souvent tout seul, malheureusement.
Il y avait l'arrêt des contrats précaires. Je sais pas si c'est sur des contrats courte durée ou si
Oui, c'est les CDD, en gros.
Ouais.
Mais là, par exemple, lors de la première grève qu'on avait faite, on avait un collègue qui devait être, il devait être en CDI à la fin de son CDD. Donc en CDI le 30 septembre. Et c'est le 27 septembre ou le 26 septembre.
Juste après la grève.
Juste après la grève, oui, il y a une personne qui est descendue. C'est même pas quelqu'un de la direction. C'est quelqu'un qui a été envoyé par la direction pour lui dire qu'il ne serait pas reconduit, il n'aurait pas de CDI. Donc,
4 jours avant la fin de son CDD, alors qu'il était.
Trois enfants.
Alors qu'il était. Voilà, qu'il était prévu. Ça faisait 2 ans, un an et demi, qu'il travaillait pour le centre Gabriel Rosset en.
Et puis l'importance aussi, il y a eu du coup les personnes hébergées qui ont fait un écrit. Il y a eu 66 signatures, je crois. Parce qu'il faut savoir que. Mais c'est un travail de longue durée aussi.
Et puis il y a du lien qui se fait. Enfin, le lien ne se fait pas comme ça avec les personnes. Voilà, il y a le lien de confiance à mettre en place.
Si vous passez votre vie à raconter votre vie à des travailleurs sans.
Oui, tout le temps.
C'est pas facile.
Et là, ils se retrouvent. Là, actuellement, on a 20 personnes qui viennent nous voir tous les jours en disant qui c'est qui va remplacer mon éducateur référent ? Comment je fais ? Qu'est-ce qui se passe ? Je suis tout seul. Et nous, on a déjà plus de 20 référents chacun.
Oui, tu peux pas prendre plus.
On les dépanne. On n'y arrive plus.
Voilà, il y avait encore 8 jours de congés supplémentaires pour les agents d'accueil, comme les autres salariés en contact avec le public. Enfin, voilà, du coup, on va pouvoir discuter avec le collègue qui bossait là-bas avant. C'est vrai que du coup, les agents d'accueil aussi ont un boulot qui n'est pas simple, parce que du coup, ils sont là en mode première ligne. Voilà, puis effectivement, comme tu disais tout à l'heure, il y a l'hiver qui arrive en plus, mais c'est peut-être pareil tout le temps, je ne sais pas. Mais du coup, quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place. Donc, du coup, les gens qui viennent taper pour.
Ils sont insultés tous les jours.
Il y a des
bagarres relativement souvent. Non, c'est compliqué. Ils sont en première ligne.
Et on a on a 5 semaines de congés par an. Et on a 8 jours éducateurs supplémentaires parce qu'on est en contact avec le public.
Comme si c'était juste une porte.
Mais ils n'ont pas ces 8 jours de congés supplémentaires.
Il y avait le déplacement du point santé, on en a parlé du coup. L'accompagnement dans le dépôt de plainte par la direction à chaque agression envers un salarié, je suppose que du coup, ce n'est pas le cas. Actuellement, on n'est pas d'accord, encore du mépris. Prévoir investir pour les agents d'accueil, prévoir plus d'espace de travail pour les éducs et changement du mobilier de l'atrium. Donc du coup, ça va être le.
C'est l'aquarium, c'est là où on est. En fait, c'est le lieu central dans le centre Gabriel Rosset. C'est là où les gens viennent pincer, c'est là où on fait les contrats et c'est là où on est plus visible en tant qu'éducateur. On est souvent à cet endroit-là, parce qu'il faut savoir que pour 6 éducateurs, on a un bureau et demi. Parce que l'autre, il n'est pas tout le temps opérationnel.
D'accord.
Donc, on a un bureau pour 6 éducateurs, ce qui est très.
Pratique pour bosser comme il faut.
Très pratique. Et puis, on a. C'est vraiment.
Donc, là, il y avait aussi élaboré un projet de service afin de clarifier les missions. Donc, ça aussi, je pense, attendre d'un ou d'une chef de service pour pouvoir mettre ça en place.
Je ne sais pas ce que je fais.
C'est un peu ouf. Et du coup, l'O3 de l'April dont on a parlé tout à l'heure. On se fait une petite pause, puis on revient après. La tienne, si elle est prête. c'est tout bon ?
Tout à fait, c'est tout prêt. Donc je vais vous envoyer, si j'ose dire, Brigitte. Brigitte
Fontaine. Fontaine. Tu as été perdu.
J'allais dire Brigitte Fossé.
Non, bah non, pas là.
Je vais vous interpréter
les crocs, les dents. Les crocs, ça fait bobo. Baby, on pleure, on crie. Pour les enfants, calvaire pour père et mère, cauchemar pour les vieillards. Ça serait un bec. Un bec, on veut un bec. Fauvette ou alouette. Heureux les pondeurs de Corbac ou Danadac. Les mammifères, bistec ou gâteau sec. Le croc, ça fait bobo. Un bec, ça serait un bec. On veut un bec. Martyr pour les vampires. Torture pour les gros durs. Horreur pour les boxeurs. Gadab, badinamnam. Un bec, on veut un bec.
Radio Canu, l'émission de Idées Noires, donc l'émission de la coordination des groupes anarchistes, et on va reprendre notre entretien avec ces personnels, agents ou salariés plutôt de ce centre d'hébergement.
Ouais, du coup, Gabriel Rosset, donc voilà, on a fait un petit point sur le pourquoi de la grève, de la mobilisation. On n'a pas parlé du coup, il y avait quand même un peu de monde, a priori, il y a eu du passage du coup hier entre 11h et 15h devant le centre. Il y a eu.
Pas mal de collègues,
ouais.
Partenaires.
Voilà. Puis du coup, ce qui était plutôt bien, c'est qu'il y a pas mal de la presse. Donc ça marche toujours. Voilà, c'est un truc du coup qu'il faut utiliser. De toute façon, en tant que salarié en lutte, voilà, c'est un truc qu'il faut utiliser parce que du coup, bah, quand ça reste en interne, du coup, la direction peut se frotter un peu les mains, voilà, et être toujours aussi méprisante. Quand il y a un peu de mauvaise pub dans la presse, entre guillemets, ça peut toujours éventuellement changer. Donc voilà, il y a quelques médias qui étaient là, donc c'était plutôt pas mal. Bah nous on fait ce qu'on peut du coup aussi pour relayer. Rébellion on l'avait fait aussi. Voilà, il y aura peut-être une autre émission, un Canu Info aussi sur le sujet. Enfin du coup, sur au moins une rubrique là-dessus. Du coup, moi je voulais juste revenir d'ailleurs, de manière à peu près, peut-être sur les suites déjà. Où est-ce que parce que là, du coup il y a eu une réponse. Enfin, vous m'avez parlé d'un écrit tout à l'heure, non de.
Alors on a fait une première réponse à la direction. Suite à notre mouvement de grève où elle comprenait pas pourquoi il y avait un mouvement de grève, donc du coup ce qu'on avait pu lui écrire, c'était que suite à la rencontre du 4 octobre avec les représentants, on était allés certains à cette réunion qui n'avait débouché sur aucun résultat. Alors pour elle, elle avait acté des choses, on lui avait bien dit qu'on était que les représentants, on ne pouvait pas acter
quoi pour tout le monde,
on attendait d'être tous ensemble et d'avoir une deuxième réunion. Donc il était prévu qu'elle nous donne des réponses à nos principales revendications le 12 ou le 14 octobre. On était hier, donc le 25 octobre, on avait constaté qu'il n'y avait aucune réponse et que le mépris envers les salariés continuait à être la caractéristique principale du dialogue social choisi par la direction. Parce que vraiment, ils nous méprisent. Donc voilà, concernant la fermeture du dortoir du Pas, ce que je disais tout à l'heure,
pour l'instant,
il n'y a rien. Et quand, pareil pour l'hébergement à la nuitée, ils nous affirment qu'ils ont la falle de la DDCS. Donc ça, c'était un courrier qu'on avait fait en réponse. Et là, on a une autre proposition de rencontre avec la direction.
DDCS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la direction départementale de la cohésion sociale.
D'accord.
Qui est notre principe, hein, qui fait partie des financeurs
du centre.
Du centre Gabriel Rossé. Donc pour l'instant, non, on a une autre entrevue qui est prévue. Mais c'est toujours les mêmes réponses et on a rien qui est acté.
Ouais, du coup, il n'y a rien de fait pour le moment. Voilà.
Réponse, c'est quelque chose qui tourne en boucle depuis des mois, mais rien n'est acté, rien n'est fait. C'est des choses qui sont proposées, mais à long terme. Et le problème, c'est que nous, on veut quelque chose qui bouge rapidement, parce qu'on peut plus voir des gens comme ça. On peut plus, c'est plus possible pour nous de les laisser dans cette situation-là.
C'est clair, en tant que professionnel, ouais, c'est compliqué. Du coup, moi, j'étais, continué un peu à naviguer sur le site hier, là, du coup, pour regarder un peu ce qui se disait. Bah, du coup, j'ai retrouvé des vieux articles, hein. Du coup, on avait parlé tout à l'heure, là, de ce travail dissimulé en 2010. Donc, ça veut dire que les personnes qui étaient en insertion et qui bossaient pour la plupart au bric-à-brac, sur les boutiques et compagnie, bah, du coup, ils s'étaient aperçus d'un coup, en fait, que ces gens-là, en fait, ils n'étaient pas payés. Personne ne savait. Il a fallu, du coup, qu'il y ait quelques personnes qui se bougent et puis, voilà, qui aillent un peu au tribunal pour demander des comptes. Et du coup, ils ont été condamnés, hein, du coup, à rémunérer, du coup, les personnes qui bossaient pour eux. C'est un peu logique, en plus, quand c'est des personnes des personnes en difficulté, essaie de réinsérer, par le travail notamment, mais du coup, par un travail gratos, c'était assez bizarre. Donc, ils ont été condamnés, en plus, rétroactivement, du coup, à payer. Donc, il y en avait pour plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ce que j'avais noté aussi, par rapport à la situation, parce que du coup, moi, je travaille dans le médico-social, donc on sait un petit peu, des fois, il y avait des trucs vraiment similaires dans la manière de faire, notamment dans le mépris et notamment dans les établissements assez difficiles. Donc, ça n'a rien à voir, c'est pas le même boulot, hein, mais c'est pas le même public non plus, mais dans les établissements très difficiles où, du coup, on n'hésite pas à user les salariés le plus possible, pour à un moment donné les faire lâcher prise, qu'ils aillent voir ailleurs, et puis pour prendre de nouvelles têtes, de recommencer ça, un an, deux ans, trois ans, et puis voilà, et à chaque fois recommencer le truc, parce que voilà. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas la première grève, dans ce centre-là. Et que du coup, effectivement, si les salariés tournent tous les deux ans, ou même toutes les années, lâchent au bout d'un moment, du coup, c'est assez compliqué, de faire ça. Et surtout, du coup, j'étais allé voir, du coup, sur les orientations stratégiques, du coup, et Axe Développement, parce que c'est là où c'est très intéressant, en ce moment, dans le social et dans le médico-social. Du coup, la première phrase, elle est assez marquante, parce que du coup, c'est totalement la problématique du moment, sur laquelle s'appuient, du coup, les directions, que ce soit un peu de partout. C'est, au sein d'un corps social marqué par un retour brutal à la réalité économique, Alors, c'est comme si avant, du coup, il n'y a pas de problème de thunes, tout allait bien, tout roulait, on avait des salariés à ne plus savoir qu'en faire, les gens étaient pris en charge correctement, alors que c'est un problème qui dure depuis des années, mais là, du coup, paf, il y a la réalité économique qui revient, et aggravée par la crise économique, du coup, c'est toujours le même problème, dans tout établissement, c'est un peu pareil, dans toutes les assos, c'est-à-dire, on dit, en fait, les financeurs publics, nous donnent moins, ou nous donnent juste, mais nous augmentent pas, du coup, les financeurs publics renvoient sur l'État, l'État renvoie sur la crise, et etc., etc. Donc c'est un peu le chat qui se mord la queue, tout en sachant quand même que quand on regarde les salaires des gens qui sont tout en haut, ça va bien pour eux. Quand on regarde aussi ceux qui partent en rupture conventionnelle, ça va très très bien pour eux. Des sous, il y en a, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Et donc par rapport aux orientations stratégiques, donc du coup ils disent qu'ils sont dans une véritable rénovation du fonctionnement associatif, hein. Donc sur le plan de la gouvernance, donc renforcement de la présence et des capacités d'orientation et de décision sur le bureau. Bon, c'est que la présence elle est pas sur le terrain a priori, hein, vu le mépris qu'il y a au niveau des salariés. Sur le plan stratégique, ouverture, recherche de positions et d'actions communes avec les acteurs du secteur associatif. Donc c'est un peu le dada en ce moment dans tous les domaines, c'est-à-dire d'aller rechercher des partenariats autres du coup que les financeurs habituels. Financement privé ou alors fusion. Ou au moins action avec d'autres associations pour essayer de gratter un peu de sous à droite et à gauche. Sur le plan opérationnel, et ça du coup c'est de partout pareil, et ça fait bien rire quand on y est directement concerné, c'est la mise en œuvre par un cabinet extérieur d'une évaluation de l'ensemble des activités, blablabla. Donc ça dans le médico-social, c'est la même chose, ça coûte une blinde. Donc il y a des évaluations externes, des évaluations internes, on oblige les salariés à s'investir dedans. pourquoi au bout pour des pseudo-actions voilà, qu'on en met en place, qui souvent sont au détriment des personnes accueillies et des salariés. Donc c'est vraiment des trucs, voilà, on essaie encore de gratter un peu sur les salariés et sur les personnes accueillies. Donc voilà, c'est toujours un peu la même chose. Voilà, puis ils sont un peu pathos, hein, les tâches sont nombreuses et lourdes pour réaliser les ambitions, voilà, enfin blablabla. Donc voilà, c'est un peu malheureusement partout pareil. Enfin voilà, c'est un peu la merde, on va dire. C'est compliqué, ils disent qu'ils ont un déficit. Enfin voilà, après, je pense que le déficit...
Ce que tu dis au niveau des financeurs, au niveau du manque, effectivement, je pense que l'État donne pas assez, mais à un moment, c'est pas aux salariés, aux usagers de se battre pour avoir plus d'argent. Normalement, c'est la direction qui va alerter le département, l'État. Là, on n'a pas assez d'argent pour accueillir autant de personnes. Et à un moment, c'est pas aux salariés de se bouger pour aller chercher de l'argent.
Ah ouais, non, mais ça, là où c'est beau, c'est que du coup, nous aussi, au niveau des gouvernances, on s'est dit, mais on fait le boulot au niveau des ARS, des CS et compagnie, mais du coup, on fait tout ce qu'on peut pour avoir plus, mais on n'a pas. On a quand même l'impression que c'est quand même que ça se bouge pas énormément. Et puis surtout, effectivement, on doit pas payer cette crise-là dont on n'est pas. Bon, on n'est pas les responsables d'abord, et puis c'est pas aux personnes. Enfin, on a vu dans d'autres pays, hein, en Grèce, en Espagne, enfin, du coup, il y a des. Puis même des fois dans l'Essonne, enfin, on a vu avec, au niveau du Conseil général, enfin, du coup, il n'y avait plus assez d'argent pour payer les RSA, plus assez d'argent pour payer les allocations handicapées. En Espagne, c'est la même chose avec des retraites coupées en deux. Et c'est toujours en fait sur les plus faibles, du coup, que ça tombe en premier. Hein. C'est pas sur les riches que ça tombe, hein. c'est sur les personnes les plus démunies. Et puis, sous les un peu tout à l'heure, quand même, c'est une bonne photo un peu de la situation de notre société en ce moment, quoi. C'est comment on. Comment on accompagne et comment on prend en charge ces personnes les plus démunies, du coup là, dont on voit ça, on dit putain c'est pas beau, hein, du coup voilà, alors qu'on devrait mettre le plus de moyens possible sur ces personnes-là. On sait qu'il y a énormément de personnes dans la rue, qu'il y en aura encore plein cet hiver, que les centres sont encore submergés, qu'on pourra pas prendre tout le monde là-dedans, quoi. Donc il y aura encore énormément de monde dans la rue. Tout en sachant derrière, voilà, nous c'est un truc un leitmotiv un peu tous les ans, c'est sur l'agglomération lyonnaise, mais pas que, un peu de partout en France, quoi. C'est les centaines de milliers de logements vides, voilà, qui existent et qui sont complètement laissés à l'abandon, que soit des trucs, logements propriétaires ou des logements de bureaux aussi. Enfin voilà, c'est des trucs qui sont vides. Et puis du coup, on laisse des gens dans la rue. Puis surtout en ce moment, il y a un peu ce bugne-à-bugne avec l'extrême droite qui utilise beaucoup ça avec les migrants, voilà, et les migrantes. Voilà, on s'occupe pas de nos SDF, on s'occupe pas de machin, mais en fait
on s'occupe pas bien de nos SDF quand même, hein.
En gros, on voit pas ces gens-là s'investir non plus dans ce milieu-là. Enfin voilà, ils sont très loin des réalités, ou alors ils se les cachent, ou alors ils font semblant de pas les voir. C'est aussi un bon outil politique pour eux et pour elles. Mais donc voilà, il y a ça, il y a ces logements vides qu'on pourrait du coup loger et vraiment tout le monde,
quoi. Il y a les moyens de reloger le siège.
Oui, voilà, c'est ça.
Mieux, de désamianter, de réinstaller pour qu'il soit mieux.
Mais par contre,
pour les usagers qui sont normalement les premiers concernés, quand on monte une association comme ça, c'est pour, dans l'occurrence, des sans logements.
Et là, on fait rien.
On fait pour la direction, pour qu'ils aient des meilleurs bureaux, mais pas pour.
Pas pour les personnes accueillies. Donc voilà où on en est, dans ce beau monde du travail social. Donc c'est très compliqué, hein, parce que ce boulot-là, généralement, on le choisit, quoi. Enfin, on fait pas ce boulot-là, on n'est pas forcé de le faire. Voilà, on choisit de faire ces formations-là, on choisit de bosser là-dedans, et puis quand on se retrouve confronté à la réalité après du terrain, non pas en tant que professionnel, enfin sur le boulot qu'il y a à faire, parce que le boulot qu'il y a à faire, on l'aime, enfin du coup, on veut le faire, puis on veut le faire correctement, mais sur les moyens qui sont mis à notre disposition, et sur, surtout après le mépris, en fait, quand on demande des choses, du coup, ça fout. Ça peut foutre en l'air, hein. Du coup, il y a, comme je dis, chez vous, il y a beaucoup d'arrêts. Dans d'autres assos, c'est aussi la même, hein. De toute façon, il y a de plus en plus de salariés qui sont à bout et qui, et du coup, c'est pas un échec de s'arrêter, hein. C'est juste le fait, à un moment donné, tu fais quoi? Enfin, voilà. Soit tu te bousilles en faisant toujours mal ton travail, parce que il sera toujours mal fait parce que t'as pas les moyens. C'est pas de ta faute, c'est juste le fait qu'on te donne pas les moyens. Ou à un moment donné, tu dis stop pour souffler, pour te sauver toi aussi, parce qu'il y a, voilà, on n'est pas là. Enfin, c'est pas du caritatif qu'on fait, hein. Voilà, c'est du boulot. Enfin, c'est un boulot professionnel. C'est pas un truc, voilà. Le bénévolat, ça existe beaucoup, du coup, en plus, au foyer, dans d'autres assos, mais c'est pas la même configuration, c'est pas le même accueil, c'est pas la même prise en charge, hein, voilà. Mais du coup, tout ça s'est laissé un peu pour compte, et du coup, voilà. Du coup, on espère que, je sais pas s'il y a d'autres choses encore.
Mais il y a un truc très positif dans ce mouvement, c'est que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de professionnels de l'urgence qui étaient vraiment contents que ça bouge. Et même, je remercie tous ceux qui sont venus nous soutenir hier.
Les usagers aussi qui étaient là.
Ouais, il y en a beaucoup qui sont venus. Et donc, oui, comme tu disais, c'est cette impuissance aussi, parce que quand tu fais grève, quand t'es en arrêt, quand t'es pas là, c'est aussi la personne, tu peux pas l'accompagner dans ses démarches, tu te sens aussi un peu coupable.
Oui, forcément, ouais.
Enfin, voilà.
Sur de la prise en charge comme ça, quand tu sais que t'es pas... Oui, c'est ça, ouais, t'es pas sûr.
Non, donc, mais vraiment, ouais. Et puis on a quand même des usagers on accueille vraiment des gens bien, des gens intéressants et qui malgré toutes leurs difficultés sont là pour nous soutenir, nous professionnels.
En plus, oui, voilà, c'est un peu l'inverse. Ouais, non, mais ouais.
Et qui sont là pour nous soutenir et qui nous accompagnent et qui étaient là hier au piquet de grève avec nous. Mm. Et qui se battent aussi pour leurs conditions. Et c'est chouette, ils prennent le risque de se battre avec nous.
Donc voilà, puis du coup, en espérant que ça s'étende, s'il faut que ça s'étende, hein, parce que du coup, la solidarité, il y a eu plusieurs du coup, manifs, comme je disais, ces dernières années. Et des fois avec plusieurs assos, sur les travailleurs sociaux ou sur le travail en urgence sociale, du coup, qui se mettaient.
Notre-Dame des sans-abri, c'est la première.
D'accord, ok, c'était la première, du coup, tout à l'heure, c'était.
Notre-Dame des sans-abri, oui.
Non, bah, ouais, ok.
Première fois en beaucoup d'années.
Ouais,
il était temps. Mais du coup, voilà. On va, du coup, peut-être terminer là-dessus. Peut-être plutôt positive, en espérant, du coup, que ça prenne de l'ampleur ou que, du coup, vous obteniez tout ce que vous demandez, au moins gain de cause. Puis voilà, s'il faut, on espère qu'il y aura encore plus de monde qui viendra d'extérieur aussi pour soutenir, parce que, du coup, ça peut aussi. Ça met aussi du baume au cœur quand tu es en lutte et que tu es en grève et quand tu te bats et puis qu'il y a des gens de l'extérieur qui viennent te voir, qui s'intéressent à ce que tu fais ou au moins à ta lutte, du coup, c'est vrai que ça donne un peu du peps et ça redonne un peu le moral parce que des fois, quand tu es enfermé dans ton quotidien et que tu es là-dedans et que tu subis le truc, mais là, du coup, tu vois que tu peux ouvrir et qu'il y en a d'autres qui s'intéressent à ce que tu fais et qui te soutiennent, ça peut, voilà. Donc, n'hésitez pas à vous tenir au courant. Nous, en tout cas, on se tiendra au courant de ce qui se passe. Du coup, c'est l'entrée, elle est au
74
rue Sébastien Griff. Et puis, du coup, voilà. Du coup, on relayera du coup tout ce qui se passera. De toute façon, on est en lien avec les salariés, là, puis avec aussi les copains et copines dessus, là, du coup, qui avaient posé le préavis. Donc, on suivra ça de très très près. Du coup, on se fait une petite pause quand même, non?
Petite pause musicale.
Ouais. Donc, c'est sur le mini jack. Voilà, c'est en hommage à toutes ces manifs de braves policiers en ce moment.
Ah bon. D'accord. Et allons-y.
C'est parti.
Allez. Fuck!
Hop là, ben voilà pour ce petit hommage aux manifs policières du moment. Vous êtes toujours à l'écoute d'Idées Noires, donc l'émission des militants et militantes de la coordination des groupes anarchistes. Et pour finir, parce qu'il nous reste 10 petites minutes, et ben on va faire un peu de lutte pendant ces 10 minutes.
Ouais, et puis on va en même temps rester un peu dans ce qui est le domaine du social, puisque c'est à Carcassonne que je vous emmène avec toujours les mêmes soucis, les mêmes problèmes. Hein, donc on a évoqué à l'instant, il y a quelque chose qui ne marche plus là.
On a des problèmes avec la technique aujourd'hui.
Ah oui, évidemment, j'ai baissé le truc, moi.
Ah bah d'accord, on reprend alors. On m'a entendu du départ ou pas? Non.
Comment?
Toi, moi, ouais, oui, mais toi, non. Bah vas-y, bah reprends tes luttes alors, vas-y.
Eh ben allez, c'est parti. Donc, comme je disais, avant que vous ne m'entendiez plus, on va rester dans le même problème de sociaux, les mêmes problèmes, donc les mêmes soucis, les mêmes problèmes. C'est à Carcassonne, c'est dans un établissement public, un EHPAD, l'EHPAD Rive d'Aude. Et c'est la CGT qui appelait à une grève pour mobiliser l'attention du public sur le manque de l'effectif en aide soignante, en infirmière, en médecin, un régime amaigrissant, donc en fait, comme il en arrive partout, pour, but du moins, c'est de retrouver l'équilibre financier. Cette réduction de personnel date du 1er janvier, et si la CGT impulse ici, FO propulse vers des négociations tripartite entre la direction, le conseil départemental et l'ARS. Il y a 160 000 euros de pertes apparemment, donc on se rabat sur la masse salariale. On dégraisse, surcharge pour le personnel en place, évidemment, c'est toujours le même souci. Même motif, même punition pour les personnels de l'établissement hospitalier aussi, qui jouxte donc l'EHPAD. L'intersyndicale, la CGT, a décidé de montrer les dents, je dirais plutôt les crocs, donc on a entendu tout à l'heure avec Brigitte Lahaie.
Il l'a fait.
Il y a des
très fatigué, je connais des tantes Brigitte et je suis
très fatigué ce soir.
J'étais complètement désattentionné de ce que je faisais. Donc c'est Brigitte Fontaine. Voilà, et non pas la R.
Bravo, on coupera au montage au pire.
on va du côté de la Mayenne maintenant, à Laval, avec une défense d'acquis sociaux pour les travailleurs et travailleuses territoriaux. C'était au 9 octobre. Alors ça va devenir récurrent, à n'en pas douter. Les élus lavallois remettent en cause des accords de 1982 sur le temps de travail, 39 heures désormais, et sans dire s'il vous plaît. Alors, les mal appris, bien sûr, et abandonner 2 semaines de congés par an. Il y a eu des rassemblements le 26 septembre, dans un premier temps, puis le 3 octobre, devant la mairie, à 12h et à 17h30. Et il y avait une grève de prévue, donc, le 13 octobre. À Paris maintenant, Paname, donc la capitale, c'est une suite de ce conflit qui n'est pas du tout la fin d'ailleurs, je pense, sur le chantier de l'avenue de Breteuil, qui oppose, je le rappelle, 25 travailleurs sans papier à la société M-BAT Immeuble, sous-traitant de la société Capron. Alors je rappelle encore que le 6 septembre, il y a eu un accident de travail, un ouvrier sans papier s'est blessé en chutant d'un échafaudage qui n'était pas au normes. Un patron qui refuse le secours immédiat aux travailleurs. Forcément, celui-ci a été embauché dans l'illégalité la plus totale. Grève des 25 ouvriers, donc avec la CGT, occupation, évacuation par la police sur ordre du donneur d'ordre, qui est précisément Covea, qui est un groupuscule carrément. Un groupe mutualiste qui comprend la GMF, la MAF et MMA, c'est pas des inconnus. C'était le 30 septembre. Au 11 octobre, rien de changé dans la situation des 25 ouvriers, malgré une forte mobilisation syndicale avec l'Union départementale CGT de Paris, l'Union locale CGT du 7e arrondissement, la Fédération CGT des banques et assurances et la Fédération CGT de la construction de bois et ameublement. Un rassemblement le 11 octobre, donc au siège de Covea, dans le 9e arrondissement de Paris, avec les revendications suivantes: la prise en charge évidemment de l'accident, l'établissement de bulletins de paye avec ancienneté, le paiement des salaires non perçus, l'obtention des demandes d'autorisation de travail pour salariés étrangers nécessaires à l'obtention pour la régularisation administrative des 25 ouvriers sans papier. Je n'ai pas eu d'autres nouvelles depuis. Et puis à Rennes également, avec, c'est à l'aéroport Saint-Jacques de Rennes, depuis le 13-10, ou du moins au 13-10, 0h, c'était précisé. Donc je le dis, avec une grève des contrôleurs des bagages salariés de Securitas qui déplore le non-respect des conventions collectives par la direction. 38 personnes quand même dans cette grève. Le préavis de grève a été déposé pour une durée illimitée. Alors là, ici, les revendications sont une prime, le temps de travail, le temps partiel. En voilà, donc, entre autres, où le bât blesse, donc, et refus de la direction de négocier selon la CFTC. À Saint-Nazaire, c'est un branle-bas de combat dans les rangs des travailleurs de la ville, des agents communautaires. En grève, le 11 octobre, il et elle avaient occupé un moment la mairie, une semaine auparavant. Alors, préoccupation de ces rebelles, eh bien, c'est des mesures d'austérité, les conditions de vie au travail, le management, du moins la rigueur du management. Un peu plus tard, le 14, c'était l'encadrement des enfants et la restauration scolaire qui s'émettaient à cette grève. À Rodez, c'est un hôpital, donc encore un hôpital, l'hôpital Jacques Puel, avec une grève illimitée des personnels en durée illimitée, intersyndicale CGT, FO, CFDT pour les aider, et là aussi, le manque d'effectifs criant, une fermeture de lit, enfin, quand on dit une fermeture de lit, c'est une suppression de lit, parce qu'on on s'amuse pas à fermer des lits. C'est vrai qu'on dit toujours ça, mais c'est des suppressions de lits pour donc un manque de personnel également, de soins. Ils dénoncent également une dégradation dans la prise en charge des patients et patientes, des heures supplémentaires non payées, la suppression d'une équipe de suppléance, ce qui aggrave évidemment la situation. Et pour terminer, une pétition a été proposée au public de l'établissement et qui a obtenu 9000 signatures. Alors, puisqu'on est toujours dans l'hosto, je dirais qu'à Bayonne, il y a une grève également au bloc du centre de cardio du groupe Capio. En cause, ce sont les salaires des personnels qui sont en statut privé. Et la revendication, c'est 60 euros de mieux, alors que la direction fait la fine bouche et propose que 50 euros. Et puis, je terminerai peut-être, si tu veux laisser dire un petit mot aussi. On continue avec les personnels soignants et soignantes de l'hôpital, donc du CHU de La Réunion. C'est à La Réunion, Nord et Sud. C'était le 7 octobre, qui protestent contre la diminution des moyens humains et financiers. Il y a eu blocage de route. Donc, un ton quand même au-dessus de tout ce qui se passe aujourd'hui. À proximité donc des établissements de soins, des CHU de Saint-Denis, de Saint-Pierre. Il y a 13 points, exactement 13 points dans leur revendication que je n'ai pas noté parce que ça aurait été vraiment très 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 long. Voilà, je continue encore un petit... une petite pour la route avec Amiens. C'était le procès des 8 Goudieurs. C'est un petit compte-rendu un peu de ce qui se passait pendant ces deux journées-là. Le procès des 8 Goudieurs qui était en appel, on se rappelle.
Oui.
Que c'était en appel. C'était le 19 et le 20 octobre dernier. Donc, 5 cégétistes qui étaient impliqués dans ce procès. Il y a eu quand même un rassemblement et manifestation, je crois, sur la région de 10 000 personnes.
Ça a fait bien d'écrire un peu de partout.
Selon la CGT, qui sont venus donc soutenir leurs collègues, leurs camarades. Je disais les inculpés, mais c'est entre guillemets, bien entendu. Une mobilisation aussi qu'il y a eu dans une quarantaine de villes avec rassemblement contre la criminalisation de la lutte des travailleurs, des travailleuses qui, en effectuant une large prospection comme cette modeste revue de lutte que j'assure depuis quelques années, met en évidence les attaques constantes du patronat, du pouvoir, contre ce que les salariés tentent de toutes leurs forces de préserver, c'est les fameux, aimés de moins en moins, acquis sociaux. Alors intimidation, harcèlement, discrimination, mise à pied, licenciement sont les armes préférées du patronat. Bref, est-ce la mobilisation totale ? Ben, je ne sais pas, je mets un point d'interrogation. En tout cas, l'effet solidarité, peut-être l'effet solidarité, ben, ça fait que le PROC a requis 24 mois de prison avec sursis. Alors, complètement disproportionné, évidemment, avec ce qui s'est passé. Donc, le jugement sera rendu le 11 janvier 2017. Et j'espère, et nous espérons tous et toutes, avec la relaxe. Donc
la relaxe, parce qu'en fait, ils avaient été condamnés déjà avec 24 mois de sursis, mais dont 9 mois fermes. Là, ils demandent que du 24 avec sursis, mais ce qui est très important, c'est qu'il y ait une relaxe totale en fait, des 5 salariés. Voilà. Et on va s'arrêter là, parce qu'il est l'heure, alors je dois aller au Canu. On vous rappelle juste la permanence, du coup, à la librairie La Plume Noire, au 8 rue Diderot, mercredi 17-19, samedi 15-19. Et il y a le mois libertaire qui commence. Donc vous allez sur Rebellion, il y a tout le programme du mois libertaire qui est tout prêt. Il y aura deux activités à La Plume, et on vous en parle là. Prochaine. Voilà, bah bonne soirée à vous. Merci encore du coup aux personnes qui sont venues, deux salariés du centre, du centre Gabriel Rosset. Ouais, merci bien et courage dans leur lutte.
Allez, à mercredi.